Bienvenue dans Histoire, Mémoire et Transmission. Aujourd'hui, nous recevons Dimitri Vouzel, l'auteur du livre Être juif en Côte d'Or 1933-1952, Espoir et désastre, aux éditions universitaires de Dijon. Dans deux précédentes émissions, M. Vouzel est venu nous présenter d'abord son ouvrage de manière générale et puis nous a parlé plus précisément de la période des années 30 en Côte d'Or avant l'occupation. Ces émissions sont à retrouver sur notre site internet. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément à la quatrième partie du livre intitulée « Le temps des reconstructions, 1944-1952 ». Dans cette partie, Dimitri Vouzel, vous parlez donc de la période post-libération pour les Juifs en Côte d'Or, et vous vous intéressez à une période de 8 années, donc de la libération de la Côte d'Or en 1944 à 1952. Pourquoi avoir choisi cette date de 1952 comme borne chronologique finale de cette partie et de votre livre ?
Alors, parce qu'en fait, en 1952, c'est donc l'inauguration d'une stèle au carré juif du cimetière des Péjos, sur lequel donc, est notée l'inscription à nos glorieux martyrs, et donc ici reposent des cendres d'Auschwitz, en fait. Donc, il y a eu une cérémonie en 1952 où des cendres d'Auschwitz ont été donc, mises à cet endroit, au cimetière des Péjos. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé pertinent d'arrêter donc, en 1952.
D'accord, donc c'était le premier hommage qui était fait aux Juifs de Côte d'Or.
Oui, c'est, je dirais que c'est la première trace dans l'espace public, puisque le cimetière est ouvert à tout le monde, de la mémoire et de l'histoire de la Shoah. Les autres, ce qu'on appelle mémoire de pierre, seront beaucoup plus tardives.
Et donc, cette période de 1944 à 1952, c'est donc une période de reconstruction, comme vous le dites dans votre livre, et en particulier pour les familles juives. Vous parlez notamment de la création du SER, donc le service d'évacuation et de regroupement des enfants et des familles juives dispersées et déportées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cet organisme ?
Oui, donc pendant la guerre, il y a eu des familles qui ont été effectivement séparées, soit parce que les parents ont été déportés et avant d'être déportés, les parents avaient pu cacher leurs enfants, soit parce que des familles entières ont été déportées et donc certains ont été assassinés et d'autres sont revenus. Et donc il y a cet organisme qui a essayé de mettre, de reconstruire autant que faire se peut, parce que parfois ça va être extrêmement difficile, voire impossible, les liens familiaux. Donc il va y avoir par exemple à Dijon envoyé encore Edmond Franck, hein, dont on a déjà parlé la fois précédente. Edmond Franck va avoir des listes de personnes recherchées, des listes de personnes qui recherchent d'autres membres de leur famille. Et donc parfois ça va permettre de les mettre en relation. Ça va être le cas par exemple avec une des très peu nombreuses survivantes des déportations qui est Paulette Lévy, puisque Paulette Lévy elle arrive donc en 1945 au miroir, à l'endroit où on accueille les déportés, alors quel que soit leur statut. Et en regardant dans ses listes, en fait, Edmond Franck va pouvoir expliquer à Paulette Lévy qu'elle a un frère qui est encore vivant et que son père est encore vivant. Et donc, ils vont pouvoir à nouveau entrer en relation.
Mmh. Et vous parlez de cette question des très rares survivants qui donc reviennent en Côte d'Or. C'est pour certains les premiers témoignages de ce qui se passait finalement dans les camps pour certains habitants du département.
Oui, alors il y a même des témoignages avant. C'est ça qui m'a frappé, c'est qu'en fait, dans la presse locale, en particulier Bourgogne républicaine, bien publique, eh bien, dès l'automne 1944, on va parler, alors il n'y a pas encore de personnes libérées ni de retour, mais il va y avoir un article qui reprend un article américain qui va expliquer ce qui se passe à Auschwitz, en fait, et qui va expliquer qu'à Auschwitz, il y a eu des centaines de milliers de victimes. Et donc, j'ai souvent pensé à comment les familles de ceux qui avaient des déportés ont-elles pu appréhender cet article. Ça a dû être assez terrible, hein, puisque elles ont l'espoir encore à cette époque-là. Elles auront l'espoir longtemps d'ailleurs. Pour certaines, ça va durer très longtemps après la guerre, l'espoir du retour. Et donc, dès avant la capitulation allemande, il y a déjà des informations. Et puis après, donc, les informations vont venir par les quelques survivants. Donc, il va y avoir des journaux qui vont mettre en relation les survivants avec les familles et qui vont donner des informations. Alors, il y a certains qui vont donner des informations terribles, puisqu'ils vont effectivement expliquer aux familles eh bien, qu'ils ont vu leur fils, leur père, leur mari eh bien, mourir. Et puis, il y a d'autres qui viennent et qui vont témoigner. Et là encore, Paulette Lévy, elle témoigne dans le journal, elle raconte ce qu'elle a subi, elle raconte ce qu'elle a vécu. Et c'est donc des témoignages qui sont mis en place quelques semaines après la fin de la guerre, en fait.
Dans cette thématique du retour, il y a aussi donc l'idée de justement des reconstructions, des réparations de ce qui a pu être fait pendant l'occupation. Et vous parlez notamment de la question de la restitution des biens juifs qui avaient été spoliés durant l'occupation. Concrètement, comment se passe cette restitution ?
Oui, alors donc déjà officiellement, il y a une ordonnance du gouvernement provisoire de la République française qui explique que tout acte commis de par la législation antisémite de Vichy est nul et non avenu. Donc officiellement, ces restitutions sont simples. Et effectivement, elles vont l'être plus ou moins. Donc il y a des restitutions simples. Un exemple, Maison du Tissu, donc Edmond Franck, c'est ce que raconte sa fille Simone. Il arrive et il va chasser celui qui avait acheté son magasin. D'autres fois, ça va être des négociations. Donc il y aura des négociations entre l'acheteur en 1941 et le propriétaire légitime qui a donc été spolié. Donc, la plupart du temps, ces négociations vont aboutir assez rapidement, à l'automne 1944. Et puis par contre, pour quelques exemples, ça va être plus difficile et là, il va y avoir donc des actions en justice. Et donc parfois ça va traîner jusqu'au printemps 1945. Donc alors qu'officiellement c'était simple, en réalité parfois ça va être complexe et compliqué.
Et pour ce qui est de cette question de la justice, justement, vous expliquez que quand les collaborationnistes sont condamnés, c'est rarement, voire jamais, en raison de leur antisémitisme directement.
Oui, ça c'est vraiment un point secondaire dans les jugements, dans les procès. C'est pas un point qui n'est pas abordé, hein. Il est abordé. Il est abordé lors des procès, alors très tardifs, hein, puisque c'est 1955, des responsables allemands d'arrestation de juifs, en particulier de la rafle de février 1944. Ce point est traité, mais c'est vraiment traité comme un point mineur, puisque la mémoire et l'histoire de la Shoah dans les années 1950 jusqu'aux années 1960 est quelque chose de secondaire par rapport aux autres mémoires, hein, qui remplissent l'espace public. Et puis dans les procès des collaborateurs locaux, c'est un point également qui est extrêmement mineur. Et en particulier avec les responsables des partis collaborationnistes, comme par exemple le Parti populaire français, le PPF, c'est un point qui n'est quasiment pas abordé. On va aborder le fait qu'ils ont trahi la France, qu'ils ont pris fait et cause pour le maréchal Pétain, qu'ils ont pris fait et cause pour les occupants allemands, mais la question antisémite, qui était pourtant au cœur de leur idéologie, elle est très rarement abordée.
Et est-ce qu'on sait pourquoi elle est très rarement abordée ?
Alors c'est dans la... c'est dans la logique du fait que les juifs parlent, hein, parce que pendant longtemps on a parlé du grand silence, mais c'est un mythe, hein, il n'y a pas de grand silence, il y a des témoignages très très précoces, sauf qu'en réalité c'est des témoignages qui sont peu entendus, hein, c'est pas qu'ils ne sont pas dits, c'est qu'ils sont peu entendus, donc c'est dans cette logique. Et puis la logique également, c'est la question de la trahison de la patrie, qui va quand même être l'élément central des poursuites qui sont engagées contre les collaborateurs.
Et vous parlez notamment du cas d'un personnage donc, qui s'appelle Marcel Pinto, qui lui était juif et qui avait rejoint pendant l'occupation un mouvement antisémite, le francisme, justement, pour ne pas se faire arrêter et qui a dû ensuite justifier de cet engagement.
Oui, alors Marcel Pinto, c'est un exemple assez révélateur. Donc lui, il est considéré comme juif par la législation antisémite, hein, de Vichy et des occupants. Et puis pour, en quelque sorte, faire ce que je pourrais dire le sous-marin, hein, pour essayer d'échapper aux dénonciations, aux arrestations, auxquelles sa famille n'a pas échappé, puisqu'il a des oncles, son père, etc., qui ont été arrêtés, certains déportés, il va décider, hein, c'est sa stratégie en fait, de s'inscrire au PPF, donc Parti Populaire Français de Jacques Doriot. Et... quand il arrive donc à Chalon-sur-Saône, le responsable local va en quelque sorte l'engager dans des actions contre la République. Hein. Il va faire partie de ceux qui vont enlever le buste de Marianne, par exemple. Et il va ensuite à nouveau se cacher. Et il va même entrer dans la résistance, hein, dans un maquis côte-dorien. Et à la Libération, il souhaite s'engager dans l'armée, hein, qui va poursuivre la lutte contre les Allemands, y compris en Allemagne. Sauf qu'il fait partie des listes des PPF, Parti populaire français de Chalon-sur-Saône, et donc il va être arrêté à ce titre-là, il va être mis en prison, et il va donc être jugé en 1945 comme collaborateur, sauf qu'on l'a bien compris, c'était une couverture, hein, son adhésion au PPF, et donc à la fin, grâce au témoignage et au travail de son avocat, il va bénéficier d'un non-lieu. Mais on voit qu'il a donc souffert à de multiples reprises, puisqu'il a dû se cacher, et encore après la Libération, il a dû expliquer ses prises de décision, qui, il est vrai, étaient particulières.
Et au contraire, vous montrez que dans ces procès, quand les personnes pouvaient démontrer de leur soutien aux Juifs, ça pouvait leur servir d'élément à décharge. Vous parlez notamment de Roger Blondet, qui était donc un ami de l'ambassadeur d'Allemagne en France, et qui bénéficiera justement d'un non-lieu parce qu'il aurait aidé des juifs pendant l'occupation.
Oui, donc ça c'est assez courant après la guerre de des collaborateurs de faire état d'attestation de juifs ou de juifs qu'ils auraient sauvés. Pour eux, c'est en quelque sorte des brevets d'honorabilité. C'est des moyens pour eux de, comment on pourrait dire, de racheter leur collaboration durant les 4 années d'occupation. Et ça ne fonctionne pas toujours, hein, ça ne fonctionne pas toujours, parce que parfois, ces attestations, elles sont peu manifestes, elles sont peu évidentes. Et puis parfois, ils sont allés tellement loin dans la collaboration que ça ne suffira pas. Hein, il y a l'exemple de Chill, qui lui, bien sûr, va dire « j'ai aidé des Juifs », mais en fait, l'enquête va montrer qu'il les a surtout aidés moyennant finance, et il s'est beaucoup enrichi avec les passages de Juifs qu'il a fait à la ligne de démarcation, donc ça ne l'empêchera pas lui d'être condamné à mort, puisqu'il a aussi dénoncé des résistants et des maquis. Donc oui, ça peut fonctionner, et ça a fonctionné à plusieurs reprises, il y a plusieurs exemples qui sont abordés dans le livre, mais ce n'est pas non plus la garantie absolue, il y a tout un contexte à prendre en considération et en compte.
Vous consacrez donc le dernier chapitre de votre livre à la question plus particulière de la mémoire, et vous abordez notamment la question du statut. Donc il y a à la fois un statut, enfin même plusieurs statuts pour les résistants, et un statut pour les déportés et internés politiques, avec la difficulté de justifier justement si ces personnes juives étaient déportées parce qu'elles étaient résistantes ou parce qu'elles étaient, parce qu'elles étaient juives justement.
Oui, donc il y a un statut qui va leur être donné, c'est le statut de déporté politique, qu'ils devront d'ailleurs prouver. Hein. On a dans les dossiers à Caen des enquêtes qui sont faites après la guerre pour montrer qu'ils ont bien été arrêtés en tant que juifs. Et donc il faut au moins 2 témoins qui attestent qu'ils ont été arrêtés en tant que juifs. Et puis il y a le cas difficile des juifs qui ont été résistants, et j'aborde ça dans le chapitre 8 hein, du livre, la résistance juive, voilà, ou la résistance de juifs côte-doriens, pas seulement en Côte d'Or, mais également dans d'autres lieux où ils se sont réfugiés. Et après la guerre, s'ils ont été arrêtés, ils vont devoir prouver qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient résistants et non pas juifs. Et donc pour certains d'entre eux, ça va être vraiment quelque chose de presque impossible, ce qui fait qu'ils ne pourront pas toujours obtenir le statut de déporté et interné de la résistance. Ils auront le statut de déporté politique, mais le statut de déporté et interné de la résistance, il leur faudra apporter beaucoup de preuves, et ceux qui l'obtiendront, c'est souvent ceux qui auront, des relations. On a le cas de Raymond Vinocourt qui connaît du monde et qui va persévérer. Et il faudra attendre presque 15 ans après la guerre pour qu'il obtienne finalement ce statut, après avoir beaucoup combattu pour l'obtenir. Et donc on voit la difficulté de ces résistants juifs de démontrer après la guerre qu'ils ont été déportés parce qu'ils étaient résistants. On va souvent les renvoyer à leur judéité, alors qu'en réalité ce n'était pas ce qui était primordial pour eux.
Et pour ceux qui, justement, étaient reconnus résistants, il y avait l'apport de la mention « mort pour la France ». Et vous citez une phrase qui montre que cette mention ne faisait pas l'unanimité. Donc c'est une phrase de Marceline Loridan-Ivens, qui était une fille de déportée, et elle aussi d'ailleurs déportée, et qui disait à propos de son père « tu n'es pourtant pas mort pour la France t'a envoyé vers la mort, tu t'étais trompé sur elle ». Donc ce qui se cache derrière la question de cette mention, c'est aussi la question de la responsabilité de l'État français dans les déportations.
Oui, qui est pleine et entière dans la Côte d'Or, puisque les différents chapitres qui abordent la question des arrestations individuelles, des rafles, montrent qu'en réalité, sauf en février 1942 et sauf pour quelques cas en février 1944, dans toutes les autres circonstances d'arrestation, c'est la police et la gendarmerie française qui sont en première ligne et qui reçoivent des listes de la part des Allemands et qui vont ensuite s'efforcer d'arrêter tous ceux qui sont sur les listes, quitte à faire des enquêtes, quitte à interroger les voisins, faire des enquêtes de voisinage, si l'adresse n'est pas la bonne, pour trouver la bonne adresse. Donc il y a non seulement une obéissance, mais il y a un zèle pour certains d'entre eux pour procéder aux arrestations. Et donc oui, après la guerre, la mention « mort pour la France » va... Même encore aujourd'hui, hein, j'ai discuté avec des familles qui trouvent cela très incongru. Parce qu'en fait, cette mention « mort pour la France », elle va être donnée à tous. Que ce soit les résistants qui ont été déportés et qui sont morts, mais aussi les déportés politiques juifs. On va leur donner cette mention de « mort pour la France », qui peut sembler, comme le dit Marceline Loridan-Ivens, comme étant paradoxale, voire pour certains comme étant insultante. Puisque c'est la France qui ne les a pas protégés, hein, qui les a arrêtés malgré... leurs actions passées pour certains anciens combattants, pour d'autres résistants, pour leur pays d'adoption, la France.
Donc en 1985 sera ajoutée la mention mort en déportation à cette mention mort pour la France.
Oui, c'est exact. Donc ça fait beaucoup de, comment j'allais dire, ça fait beaucoup de mentions officielles qui sont certainement importantes, qui peut-être sont un moyen de justement de corriger, si tant est que ce soit possible, la non-protection pendant la guerre. Maintenant, ce qui compte surtout, je pense, plus que toutes ces mentions, c'est de raconter l'histoire de ces hommes et ces femmes et de ces enfants et de s'en souvenir. Et c'est le but principal, en fait, de ce livre, hein, de leur rendre hommage, de montrer la façon dont ils ont été petit à petit exclus de la société française, mais le fait qu'ils en faisaient bien partie avant la guerre et ils en ont bien fait partie également après la guerre.
Et donc vous finissez le livre sur la question justement des traces physiques de cette mémoire de la Shoah en Côte d'Or. Donc on a parlé de cette stèle érigée en 1952 au cimetière des Pégès à Dijon et qui sera donc la première marque physique de cette mémoire de la Shoah. Et jusqu'à 1993 et la position d'une plaque dans la cour de la gare de Dijon, il n'y a pas eu d'autres manifestations de cette mémoire.
Non, alors s'il y en a une, les deux plaques qui sont apposées à la synagogue, c'est-à-dire à l'entrée de la synagogue de Dijon, il y a deux plaques hein, qui ont été mises en place. Alors je n'ai jamais pu trouver la date, pourtant j'ai fait une enquête assez fouillée sur le sujet, mais personne aujourd'hui ne se rappelle quand elles ont été mises en place. Donc des plaques sur lesquelles sont portés les noms, les prénoms de ceux qui ont été déportés parce qu'ils étaient juifs, en rappelant, et je le fais aussi à un moment donné, que ces plaques comportent certaines erreurs, aujourd'hui, et donc maintenant peut-être qu'elles seront, amendées, elles seront corrigées, hein, puisque je rappelle, c'est pas mon mantra, mais je trouve que c'est très important, on doit le respect aux morts et la vérité aux vivants, donc quand on sait maintenant les choses, il est important, je pense, de rendre hommage à ceux qui malheureusement sont morts. Et je donne un exemple, hein, il y a Mathilde Salm qui est sur la plaque, sauf que Mathilde Salm, elle n'a jamais été déportée, puisqu'elle a été cachée avec ses deux filles, c'est son mari, Arthur Salm, qui lui a été déporté en 1943 et qui lui a été assassiné. Donc c'est son nom qui devrait être sur la plaque et pas celui de son épouse qui elle n'a pas été déportée.
Et comment on peut expliquer cette économie, on va dire, de traces physiques?
Alors l'économie, là encore, c'est le fait que il faut attendre. Alors on connaît le livre de Robert Paxton, hein, La France de Vichy, hein, qui montre la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs. On est au début des années 1970 et donc pendant longtemps c'est quelque chose qui est occulté. Qui n'est pas abordé de front. Il faut se rappeler aussi qu'il faut attendre 1995 pour que Jacques Chirac, dans son discours, reconnaisse sa responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Jusqu'en 1995, personne ne l'avait reconnu officiellement. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a si peu de traces. Et donc il y en aura quelques-unes qui seront mises, je les aborde, par rapport à des familles, par exemple à Jumeaux ou dans le Nord-Côte d'Or ou à Dijon, mais ces traces seront plutôt du XXIe siècle en fait.
Oui, c'est ça, il y a des traces plus récentes et on peut notamment noter que le 19 juin 2023, le conseil municipal de Dijon a voté la pose de 11 pavés de mémoire qui seront donc posés au courant du mois de mai 2024 et qui sont destinés à rendre hommage aux 11 personnes qui ont été déportées le 26 février 1942 dans une rafle. Et c'est une rafle, vous expliquez, qui était jusque-là assez mal connue aussi.
Oui, ben, totalement occulté, hein, puisque c'est la première rafle, ils sont quand même 11, c'est des Français pour la plupart, il y a un étranger sur les 11, et en fait, elle a été occultée, non pas parce qu'en réalité, comme j'explique, ben, il n'y a plus de famille à Dijon, aucun n'est revenu, et puis il y en a d'autres qui ont lieu après, où là, il y a eu parfois des survivants, ou parce qu'il y a aussi une mémoire, hein, celle de juillet 42, ben, ça renvoie à celle du Veldiv, donc celle-là, effectivement, tous les ans, il y a le rappel qui est fait, et à juste titre, dans la cour de la gare, il y a tous les noms qui sont rappelés. Celle-là, on connaissait un ou deux noms, mais les 11 n'étaient pas... Sauf que la liste existait déjà, en réalité. C'est une liste, je n'ai pas inventé, une liste qui a été établie en 1947, hein, après la guerre, et on précisait d'ailleurs dès l'époque que c'était des otages. Donc eux, ils ont été pris comme otages, comme on prenait au même moment, en février 1942, des communistes. Et donc eux m'ont particulièrement intéressé, parce que ce sont les premiers déportés. Eux seront déportés dès le 5 juin 1942. Donc ce sont les premiers Dijonnais arrêtés parce que juifs, déportés et assassinés. Ils sont tous morts dans l'été 1942.
Merci Dimitri Vouzel.